Et je vais lire tout d'abord dans Philippiens un passage qui va être un petit peu le fil conducteur de ses vœux. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, je lis. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » À nouveau, ce terme d'ensemble, les uns les autres, avançons ensemble. Alors bien sûr, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses cette année, à partir de l'apôtre Jean qui écrit dans la troisième épître, au début de cette épître, il dit « Je souhaite », donc il s'adresse à Gaius, on ne sait pas très bien qui c'est ce Gaius, peu importe, on peut s'identifier à Gaius aussi. « Je te souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Il n'a pas dit ton esprit, ton âme. Donc, vous voyez, notre âme, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous décidons, est important et capital. C'est aussi ma salutation pour vous ce matin, que vous prospériez, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan communautaire. Nous sommes une communauté. C'est une église, ça s'appelle une église, et je nous souhaite tous de prospérer en tous égards, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du moral ou du spirituel. Continuez à courir vers le but. Mais en fait, vers quel but ? Eh bien, Paul, dans cette épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 14, dit « Je cours pour obtenir le prix de ma vocation. » Ou le mot « appel », c'est le même que « vocation », le prix de mon appel. « Obtenir le prix de mon appel ». C'est quoi ? C'est-à-dire, dit-il, ma vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courons donc dans le sens de notre appel, qu'il soit individuel ou collectif. D'ailleurs, l'année 2021, dans laquelle nous venons d'entrer, sera celle où l'appel de cette communauté sera réécrit, et je m'en réjouis, car tous les membres n'auront plus d'excuses, ils pourront ainsi courir dans la même direction et retrouver une vision commune, quelles que soient les générations, que ce soit G20 ou G21. Bien sûr, cette année 2020, bien qu'il ait commencé en décembre 2019, cette année 2020 a été éprouvante à différents degrés pour nous individuellement, collectivement. Bien sûr, à cause de ce petit truc minuscule qui s'appelle un coronavirus, qui a touché le monde entier et qui nous a isolés les uns des autres. Mais aussi par une déstabilisation qui est venue de l'intérieur de notre communauté à cause de nos faiblesses respectives, en commençant par la mienne, que j'ai confessée le dimanche 18 octobre devant vous. Nous avons été certes ébranlés, mais je crois que Dieu est en contrôle de son Église et qu'il va faire sortir le bien du mal que l'ennemi a projeté de nous faire. La venue d'ailleurs de Pierre-André et Chéna a été bousculée, ce qui devait arriver au printemps, au mois d'avril. Mais là encore, ce couple se retrouve renforcé dans son appel pour venir ici et dans sa maturité au niveau du couple. Et on ne peut dire que gloire à Dieu. Lorsque la direction de l'Église a compris le danger que nous étions en train de courir et l'a mise en œuvre, les leçons que nous avons tous apprises du passé, clarté, droit, autorité. S'il y en a qui ne le savent pas encore, on va le répéter. Pour rétablir l'autorité du Seigneur dans son Église, qui a été mise à mal par l'ennemi qui a influencé quelques chrétiens mal dans leur peau, il faut refaire la clarté. Il faut recommencer le processus au départ. La clarté pour rétablir le droit conformément à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'à la rentrée en septembre, nous avons lancé des réunions de prière, de repentance, en vue d'un réveil spirituel. Jusqu'à présent, un petit nombre de personnes s'y sont joints et nous voyons déjà des résultats encourageants. Mais sachez que nous n'arrêterons pas cette réunion tant que la majorité d'entre vous s'y seront joints ou que Dieu nous donnera le feu vert pour arrêter. Car la démarche de repentance est la seule qui pourra faire reculer l'ennemi et rétablir l'autorité de Christ au milieu de nous. N'est-ce pas avec la proclamation de la repentance que Jean-Baptiste et même Jésus lui-même a démarré son ministère après son baptême? Nous avons constaté aussi l'infiltration du monde dans l'Église, dans de nombreuses situations, amenant l'affaiblissement du message de l'Évangile. Et nous voulons remédier à cela. Alors, début mars, nous avons été au bénéfice, d'ailleurs c'est le dernier invité qu'on a pu avoir cette année, d'un enseignement sur la transmission intergénérationnelle par Luc Bussière dans le cadre de la postmodernité, de ce temps que nous vivons, qui est particulier et qu'il faut connaître. C'est ainsi qu'est né le projet G21, qui a pour objectif de transmettre les expériences pastorales accumulées depuis une trentaine d'années, depuis la création de cette Église, vers la prochaine génération qui dirigera le PEA dans les 30 années qui viennent. Ce projet, qui a suscité certes l'enthousiasme général des G21, sera poursuivi dès que possible, car il est capital pour poursuivre l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés et appelé cette Église. L'image de la construction d'une maison est parlante et a permis d'illustrer l'œuvre de la génération G20 comme étant le gros œuvre dirigé par le maître d'œuvre qui est Jésus et qui est accompli maintenant et qui permet d'envisager le second œuvre. D'ailleurs, le gros œuvre, souvent, on met un sapin sur le toit, voilà, il est là. Donc, le sapin qui termine la charpente. C'est un joke, ça. Parce que si on fait ça en Alsace, je ne sais pas si on le fait ailleurs. Pardon ? D'accord. Et donc, ça nous permet d'envisager le second œuvre, qui est pas moins facile, qui est pas moins long, qui est aussi long, mais qui bénéficiera de tout le travail accompli par la génération précédente, la G20. C'est ainsi que la génération G21, donc de ceux qui ont 25 à 50 ans actuellement, ils pourront accomplir l'œuvre que Dieu a commencée et qui se poursuivra dans la continuité des valeurs et de l'expérience acquise, pour aller plus loin et accomplir l'œuvre de Dieu à Aubergenville. Est-ce que ça marche encore ? Ouais, parce que là, ça s'est éteint, mais c'est pas grave. La 2021 verra également l'accomplissement de l'organisation que l'Église nous a révélé au fil des ans, depuis ces 20 dernières années, à savoir une gouvernance à deux offices. Un office de pasteur principal, que vous voyez à gauche sous l'appellation G20, et un office de pasteur opérationnel. En effet, la venue de Pierre André et sa prise de fonction de l'office de pasteur opérationnel permettra de voir l'efficacité d'une telle organisation et son avantage conformément à une vision néo-testamentaire de l'Église et mieux adaptée pour le second œuvre. C'est ainsi que le pasteur principal, que je suis, et qui aujourd'hui a deux casquettes, occupe deux offices, est très efficace dans le cadre du gros œuvre. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du gros œuvre, que j'ai fait plusieurs reprises, que ce soit ici, chez moi ou chez mes enfants, eh bien, il faut être sur le terrain, il faut s'occuper de l'architecture, il faut s'occuper d'un travail d'architecte, d'un travail de calcul de dimensionnement, un calcul pour les fondations, il faut avoir des bottes pour aller dans la boue jusqu'à ce que le terrain soit viable. Ensuite, après, il faut couler les fondations, il faut monter les murs, il faut monter la charpente, etc. Donc, pasteur principal, pasteur opérationnel, ça convient bien dans cette période. Mais quand on commence à maintenant être dans une maison qui peut faire face à la tempête et toutes les intempéries, et qu'on s'occupe de l'intérieur, on peut changer les choses. Et le pasteur principal aura donc, que je suis, aura la tâche d'avoir un rôle symbolique. Symbolique, pourquoi ? C'est-à-dire, il représente la communauté en étant le garant de la vision, mais il faudra renforcer le pouvoir du collège des anciens, chargé de veiller à la bonne marche de la communauté, de manière à ce que le pasteur opérationnel puisse pleinement exercer le gouvernement de l'Église. Et donc, ce sera l'objet de ce renforcement du collège des anciens qui fera l'objet d'une assemblée générale en février prochain, où on adoptera aussi le principe ecclésiastique, qui est aussi un document en plus des statuts et du règlement intérieur, de l'indice E, puisqu'on est déjà à l'indice D, qui donnera l'ensemble de l'organisation qui se mettra en place avec le venu de Pierre-André, on l'espère, vers le mois de juin. 2021 sera donc l'année de l'installation de Pierre-André et Chéna, qui renforceront le corps pastoral, la prise en charge du ministère de la Maison d'Élie, la charge de gardien à la suite de Claire et la prise de fonction de cette opérationnalité du gouvernement de l'Église. Et nous nous réjouissons de leur venue et de la bénédiction que ce sera pour notre communauté et pour ce travail de seconde œuvre de cette maison de Dieu qui est l'Église. Alors, il nous faut aller vers une plus grande maturité, parce que les crises ne sont pas seulement sanitaires, elles sont aussi politiques, économiques, etc. La crise du Covid-19 a d'ailleurs montré les failles qui étaient latentes et qui sont apparues, et en particulier les failles des chrétiens. Et au lieu de se serrer les rangs, on a vu souvent des attitudes navrantes parmi les chrétiens. Je pense, par exemple, l'origine de la pandémie qui a commencé à l'église de Mulhouse, rappelez-vous, les scandales, les médias, etc. Mais c'est surtout les chrétiens qui souvent ont exercé du jugement vis-à-vis de ces dirigeants, qu'ils ont accusés de tous les péchés de toutes sortes. Je pense aussi à un autre drame qui est les chrétiens évangéliques qui s'engagent en politique. Les évangéliques américains, qui sont dans la nouvelle réforme apostolique, entre autres, qui sont dans le dominionnisme, ils pensent qu'il faut prendre les manettes des pouvoirs, des médias, etc., pour faire changer les choses. Ils ont montré au monde, et en particulier aux Français, une face lamentable de collusion avec le pouvoir politique. On a vu des dégâts de cet évangile politique où on a frôlé la perte de la démocratie aux États-Unis, de cette plus grande nation du monde. Heureusement, le Seigneur ne l'a pas permis et on peut lui en être reconnaissant parce qu'on aurait tous été dans de beaux draps. Cet épisode n'est pas terminé parce que beaucoup de chrétiens évangéliques ne réalisent pas les temps dans lesquels nous sommes, à l'instar de Jésus, qui reprochait à ses disciples de discerner les temps. Vous voyez, on sait que quand le soir, le ciel est rouge, le lendemain, eh bien, il fait beau. Et déjà, à l'époque de Jésus, on le savait. C'est quelque chose qui fait partie de toute remonte dans l'Antiquité. On ne savait ces choses-là. Et il a dit, vous ne savez pas discerner les temps de l'histoire dans laquelle vous êtes. En effet, on voit partout dans le monde se lever une tyrannie des bouffons, selon l'expression de Christian Salmon, avec la montée des nationalismes. Non pas que le mondialisme soit une solution meilleure, puisqu'il a détruit des emplois en Occident, tout en créant en Asie, mais on connaît les frustrations légitimes, en particulier de la classe moyenne, des cols blancs et des cols bleus, qui ont perdu des emplois, qui ont été lésés et qui se replient sur la nation. Mais les chrétiens, qui aussi, bien sûr, sont tributaires de ces problèmes économiques, au lieu de se tourner vers les valeurs du royaume de Dieu, eh bien, ils investissent dans l'évangile politique au lieu d'investir dans l'évangile du royaume. Ils se mêlent de politique, ce que Jésus n'a jamais recommandé. Ça fera l'objet d'un autre message pour bien être convaincu qu'on n'est pas, en tant que chrétien, amené à s'engager en politique. On peut être serviteur dans un métier, mais pas s'engager. Alors, j'aimerais dire qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se produire. Et comme dans les années 30, 1930, la montée du fascisme a été soutenue par les chrétiens allemands, italiens et autres au nom d'un ennemi. Vous voyez, c'est toujours en réaction, c'est le problème de la pensée binaire, en réaction au communisme, abat le communisme. Et au nom du communisme, y compris l'Église catholique romaine a soutenu bien cette montée du fascisme, pour abattre le communisme. Vous voyez, c'est un peu comme si les chrétiens pensent que Dieu n'est pas assez puissant pour abattre le communisme, si jamais il fallait l'abattre. Il faut lui donner un coup de main. C'est ça le problème de l'engagement politique. Et le monde entier est entré dans la deuxième guerre mondiale, qui a fait des millions de morts, qui a fait des juifs, la Shoah, etc. Or, nous voyons ce fascisme se lever à nouveau et les évangéliques s'engouffrer à nouveau de la même manière, comme si l'histoire n'apprenait rien. Aujourd'hui, l'ennemi qui est désigné, c'est toujours le dualisme, vous voyez, c'est abat le mondialisme et replions-nous sur les nations. L'Église, vous savez, est en mauvais état car elle place sa confiance en l'homme, au lieu de rester attaché à Christ. Comme si l'homme politique pouvait amener un salut, au lieu de s'attacher à l'évangile historique. Jésus est venu il y a 2000 ans, et il a vaincu l'ennemi. L'ennemi, ce n'est ni le communisme, ni le mondialisme, mais c'est le péché, et celui qui en est l'instigateur, Satan. Pourtant, la pandémie a permis de voir l'irresponsabilité de ces dirigeants narcissiques qui prônent le nationalisme. Et malgré cela, les chrétiens sont restés dans leur aveuglement du sens de l'histoire. Il est temps que nous revenions à l'évangile authentique et unique, celui des Écritures. Nous détournons de tout les autres évangiles, de toutes les autres bonnes nouvelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient paroles de foi, paroles de prospérité, de développement personnel, etc. Il y a tout un tas d'évangiles qui prospèrent aujourd'hui. Je prie que les membres de notre Église retrouvent l'unité autour d'un seul évangile, celui de la proclamation historique, de la victoire sur notre ennemi commun, le diable. Amen. Et je remercie David pour les chants qu'il a pris justement pour proclamer cette victoire. C'est le diable qui est l'anti-autorité. Si nous voulons retrouver l'autorité du Christ, il faut dégager celui qui est contre l'autorité et qui n'a qu'une envie, c'est de détrôner Dieu et de se mettre à sa place. Il y a du chemin à parcourir, mes amis. Parce que la pression est forte, et vous avez tous Internet, et vous avez tous un tas de sites, et de sites même chrétiens, qui sont dans ces mouvances. Mais il faut savoir où va le monde. La Bible nous révèle l'histoire qui se termine par un jugement, le jugement dernier. Le temps des nations, mes amis, est terminé, depuis 1948, où Israël est revenu dans son pays. Il y a eu un temps d'histoire, comme Jésus il y a 2000 ans. Il y a des époques comme ça, qu'il faut bien comprendre que ce sont des marqueurs dans l'histoire et qui ne sont pas des fake news, qui sont des choses qu'on peut... Bien sûr, il y en a qui pensent que marcher sur la Lune, ça a été une fake news. Mais Israël, vous voyez, on a la nation d'Israël qui existe, qui est un État, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est une fake news. Et ce temps qui a été marqué par le retour des Juifs à Sion est un temps qui a marqué la fin du temps des nations. Ainsi, préparons-nous pour le jour où Jésus va revenir. Profitons d'annoncer l'évangile de salut comme notre frère nous le montre avec son humilité qui est à couper au couteau. C'est bien, et qui nous montre que simplement donner un petit tract, un petit évangile, eh bien, et en priant derrière, eh bien, la parole de Dieu fait son action. Donc profitons d'annoncer dans ce temps qui nous reste, dans cette fenêtre, avant que la porte de l'arche de Noé s'est fermée, c'est Dieu qui l'a fermée. Ce n'est pas Noé, mais à un moment donné, Dieu dit c'est terminé, et la porte se ferme, et le déluge arrive. Et c'est ce qui nous attend. Donc, veillons et prions. C'est le message que j'aimerais vous donner ce matin. Veillons et prions. Et témoignons de notre foi. Et détournons-nous, par grâce, de toutes les fables habilement conçues, pour nous entraîner dans des chemins de travers, vers d'autres évangiles, vers d'autres bonnes nouvelles. L'heure est grave, il est temps de resserrer nos rangs et de nous concentrer sur notre appel et notre mission, car le Seigneur vient bientôt. L'année 2020-21 sera celle de l'inauguration de la maison de prière. Serons-nous au rendez-vous pour prier ? 2021, nous allons continuer à étudier plus à fond la question du royaume de Dieu, car pour déceler des faux billets de banque, il faut connaître le vrai, à fond le vrai. En 2018, beaucoup de membres se sont passionnés pour cette étude, mais beaucoup ont abandonné en route, et je le déplore profondément. Je vois que certains chrétiens se passionnent davantage pour relayer les théories du complot que de creuser la question du royaume de Dieu. C'est aussi un signe de décadence de l'Église, et ça participe au sommeil spirituel. L'ennemi veut nous endormir, sachez-le. Et Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Dans des temps que nous vivons, les ténèbres s'accumulent. Et les ténèbres jouent sur nous. Et nous avons plus de mal. Et nous avons besoin de l'Église pour nous aider à prier ensemble. Moi, je suis toujours porté par la prière chaque mercredi où les frères et sœurs viennent. Et on peut prier ensemble. Ça nous aide, parce que l'Église, c'est Jésus qui l'a créée pour ce but. Je vous encourage donc à vous ressaisir et à retrouver une nouvelle passion pour son royaume et à renverser cette tendance charnelle de propre suffisance. Pour terminer, faut-il aussi rappeler, et là je rejoins Michel, je ne savais pas qu'elle avait le même verset que moi, de la fin de l'évangile de Jean, gardez-vous des idoles. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Et l'apôtre Jean, c'est celui qui était le plus proche de Jésus au sens de cette amitié, de cette proximité. Faut-il rappeler que le monde est gagné par une idole, nouvelle et ancienne à la fois, le veau d'or. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le capitalisme libéral sauvage est roi sur toute la Terre. Il n'y a plus d'obstacle idéologique. Le communisme est tombé. Et le capitalisme est allé, même en Chine, puisque c'est un capitalisme d'État, il est allé partout. Parce que l'argent, ça attire tout le monde. L'idole du veau d'or a détrôné celle de la raison en France. En 1789, c'est l'idole de la raison. Mais ça a changé. En France, depuis les années 90 aussi, où le mur est tombé, toutes les portes sont ouvertes au capitalisme libéral, néolibéral. Derrière cette idole se trouve l'influence directe de Satan, qui en profite pour détourner les hommes, y compris les chrétiens, de Dieu. C'est la montée de l'Antichrist, l'homme providentiel qui sait utiliser l'argent à ses fins. Attention de ne pas nous laisser entraîner par elle, car Jésus nous a prévenus dans le sermon sur la montagne qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le principe de la richesse. Les chrétiens évangéliques l'oublient souvent. C'est une grave erreur. Suivons cette recommandation de Jean qui dit « Gardez-vous des idoles ». Que cette année 2020 soit prospère avec notre regard fixé sur Jésus, fixé sur la croix. Là où l'agneau a été immolé. Là où le péché a été réglé à la croix. Même Jean-Baptiste, voyez-vous, tout Jean-Baptiste qu'il était, il était troublé. Troublé parce que c'est lui qui avait dit « Celui à qui je vais se baptiser, je ne pourrai pas dénouer les lacets de sa chaussure parce que c'est lui qui va vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. » Le feu, c'est toujours le jugement. Et Jean-Baptiste a été déstabilisé quand il a vu que lui-même était mis en prison, que les Romains étaient toujours là et qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas compris que Jésus, c'est lui qui a été jugé à la croix parce que le péché est tombé sur lui. Il fallait d'abord que le péché soit réglé et ensuite après que le jugement vienne à la fin. Et Jésus lui a rappelé, il a dit « Je suis venu pour bénir mon peuple ». Et moi, je vais être frappé par Dieu. Eh bien, c'est le lot de tous les serviteurs de Dieu. Et quand on est pasteur, on comprend cela par la force des choses. Qu'on est frappé quand on est serviteur. Parce que on est disciple. On n'est pas plus grand que notre maître. On sera dans l'éternité avec le Seigneur quand il sera venu. Mais il faut que le jugement des nations passe avant. Et c'est ce qui maintenant va arriver. Donc, acceptons de souffrir. Non pas pour notre salut, puisque le salut, Jésus l'a fait. Mais la souffrance fait partie du serviteur de Dieu. Et je vous invite, pendant cette année 2020, à ne pas fuir la souffrance. Si Dieu la veut, il va vous purifier. On a vu Pierre-André et Chéna qui ont été purifiés au travers de la souffrance. Il ne s'agit pas de l'appeler, la souffrance, elle vient toute seule. Mais quand elle vient dans le service, Dieu s'en sert pour nous faire grandir et croître dans sa grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette assemblée et que nous puissions vraiment revenir à notre place de disciples du Christ et pas de conquérants, ni de militants, mais de serviteurs. Amen. Prions un instant. Seigneur, tu vois cette année 2021 qui s'annonce, où les choses n'ont pas disparu de la crise, mais Seigneur, nous te demandons que nous soyons ambassadeurs du royaume, et pas que nous essayons, nous, à notre niveau, de donner les coups de main à ce monde qui se perd. Seigneur, donne-nous d'être à notre place, et de ne pas, Seigneur, nous disperser dans l'objectif que tu nous as donné, dans notre appel et notre mission. Seigneur, que cette année, qui est le travail de réécriture de la vision, de l'appel et de la mission, puisse être claire afin que chacun de ceux qui viennent, deviennent membres ici dans cette assemblée, puisse, Seigneur, s'attacher à cette tâche, à cette priorité. Et Seigneur, que maintenant, Seigneur, tu puisses agir dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.